Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
C'est 23.
Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes.
Au cégep et dans les universités, ça devrait se faire en présentiel. C'est ce qui a été annoncé cet après-midi par la ministre de l'Enseignement supérieur, Danielle Mécan, et le directeur national de la Santé publique, le docteur Horacio Arruda. On en parle tout de suite avec Bernard Tremblay. Il est PDG de la Fédération des cégeps du Québec. Monsieur Tremblay, bonsoir.
Bonsoir, M. Lagacé.
OK, donc les modalités pour la rentrée, ça va être quoi pour que le présentiel soit une réalité?
Écoutez, la grande condition, c'est la vaccination. Hein, vous l'avez entendu. Donc, dans le groupe d'âge des 16-29 ans, atteindre une vaccination de 2 doses de 75%. Alors, c'est vraiment la condition qui est fixée par la santé publique pour nous laisser revenir à quelque chose qui va ressembler à la normale.
Mais si je comprends bien, là, vous n'allez pas demander aux étudiants de 16 à 29 ans s'ils ont été vaccinés. Vous allez regarder les statistiques du ministère de la Santé et si chez les 16-29, on est à 75%, c'est go.
Oui, c'est l'information qu'on a eue aujourd'hui. Donc, on sera tributaire effectivement des données du gouvernement qui suit la vaccination et qui va la suivre au cours de l'été, en espérant que juste avant donc la rentrée, on sera bien à ce niveau-là de 75% pour les étudiants, pour les jeunes en fait, hein, parce que ça dépasse évidemment le groupe d'âge, oui, d'âge des étudiants. Là.
Mais est-ce qu'il n'aurait pas été mieux de demander aux étudiants eux-mêmes, les premiers concernés au cégep, à l'université, de demander la preuve de vaccination?
Ah, ben écoutez, moi, je vous dirais oui, j'aurais bien aimé qu'on puisse être de façon, je dirais, un petit peu plus coercitif, mais je comprends que, bon, c'est pas l'approche qui est préconisée. Je pense que, d'ailleurs, la santé, on souligne que la campagne de vaccination va bon train. On nous disait d'ailleurs que lorsque on a des démarches un petit peu trop coercitives, on fait une résistance. Et je pense que la santé publique mise vraiment sur le fait que, bon, il semble toujours y avoir un engouement des Québécois pour la vaccination et que cet engouement-là, avec un taux de vaccination.
Qu'on a perdu M. Tremblay?
On dirait qu'on l'a dit dans le bon sens.
M. Tremblay, écoutez, je ne sais pas où vous vous trouvez. Je ne sais pas si vous vous déplacez ou si vous êtes dans un immeuble où il y a beaucoup de béton, là, mais on vous a perdu pour les 3 dernières secondes.
Désolé.
Je vous relance un peu là-dessus. Est-ce que vous, à la Fédération des cégeps, vous avez suggéré à la santé publique de demander une preuve de vaccination individuelle?
Non, on n'a pas demandé ça. Nous, on mise plutôt sur des façons de, je dirais, de faciliter la vaccination chez les jeunes. Alors, c'est pour ça qu'on, depuis plusieurs semaines, nous, on milite pour qu'on puisse vacciner sur les campus. Donc, en sachant que en 46 des 48 cégeps du Québec offrent le programme soins infirmiers. Donc, des infirmiers, des infirmières, on en a, qui sont en mesure de vacciner. On a d'autres professionnels avec tous nos programmes de santé qui ont aussi cette capacité-là. Et qui pourrait donc, parce qu'on sait que la proximité, le fait de ne pas avoir d'efforts à faire, surtout chez des jeunes, ça peut être une clé pour augmenter donc le taux de vaccination. Jusqu'à maintenant, on nous dit, écoutez, la campagne va bon train, on n'a pas d'inquiétude, mais on retient votre offre. Mais c'est sûr que nous, on se dit, ben ça, ça serait un élément, en fait, qui viendrait nous rapprocher du but, parce que 75%, c'est quand même élevé comme objectif.
OK, je vous amène sur l'enseignement à distance, OK? Il y a des profs de cégep qui m'ont manifesté, M. Tremblay, là, que c'est extrêmement séduisant pour un cégep de penser qu'un prof de sa classe ou de chez lui donne un cours, non pas pour 30, 40 personnes, mais pour 200 personnes. Est-ce que il y a cette tentation dans les cégeps de faire en sorte que l'enseignement à distance, ça puisse atteindre plus de gens par prof?
Non, bien franchement, là, je pense que ça, on s'inquiète, je dirais, de façon un peu excessive. D'abord parce que dans nos conventions collectives, il y a des règles qui font en sorte que la charge de l'enseignant est contrôlée en fonction du nombre d'étudiants, et ce, que ce soit à distance ou en présence. Deuxièmement, je peux vous dire que de façon unanime, les directions générales ont dit et redit comme ils souhaitaient le retour sur les campus. Et encore ce matin, quand on a parlé à la ministre, c'était un message unanime à l'effet de dire merci, c'est ce qu'on veut, parce qu'on sait que c'est nécessaire, cette expérience-là, sur le terrain pour le jeune. Là. C'est ça qui génère de la réussite. Là. Alors, je pense pas qu'on a un attrait pour la distance. Je dis pas, comme certains l'ont dit, qu'on n'attirera pas des leçons de cette expérience-là et que certains cours pourront pas se donner à distance. Je pense entre autres aux adultes, tous nos travailleurs qui ont besoin d'être qualifiés. Bon, ben, eux, c'est sûr que c'est une formule intéressante. Puis là, on a développé une expertise. Mais pour nos jeunes de 16, 17, 18 ans, ils ont besoin d'être sur le campus. Ils ont besoin de vivre l'expérience cégep. Alors, c'est clair que la formation à distance, on ne peut pas l'exclure complètement, mais ce n'est pas la voie à suivre à court terme pour nous. Ce qu'on veut, c'est revenir sur nos campus.
Monsieur Tremblay, merci. Bonsoir.
Merci. Au revoir.
Mauvaise nouvelle pour les jeunes de secondaire 5. Bien, les bals de finissants ne pourront pas avoir lieu pour une deuxième année consécutive. On va en parler avec une finissante qui s'appelle Chloé Brideau. Salut, Chloé.
Bonjour.
Comment vous avez réagi en apprenant la nouvelle officiellement?
Honnêtement, j'étais très déçue, très triste. C'est comme un rêve d'enfance que, tu sais, on regarde les filles de secondaire 5 qui chassent leur robe, qui se maquillent ensemble, puis... Ça a vraiment été une grosse déception de voir que nous autres, on pourra pas vivre ça. Puis aussi, tu sais, on avait comme un peu espoir, étant donné qu'on est retourné à l'école en présentiel à 100%, les cas diminuent, on a recommencé à avoir espoir. Puis là, on a eu la nouvelle aujourd'hui là, qu'il y aurait pas de balle, fait qu'on était vraiment, vraiment déçus. Là.
Chloé, c'est un rêve à tel point que vous vous êtes impliquée là, à l'école dans un comité pour essayer de faire débloquer ce dossier-là.
Ouais, il y a un comité de l'école qui a été organisé pour essayer d'organiser un bal. C'est sûr que les autres étaient un petit peu sur les stops, là, si je peux dire. Là. Ils étaient comme, ben on va essayer d'organiser quelque chose, mais on vous promet rien. Ça a toujours été très clair qu'ils nous ont jamais rien promis. Je pense que s'ils nous avaient promis quelque chose, ça aurait été, notre réaction aurait été encore pire, là. Mais, ouais, c'est ça. Je pense que c'est une déception pour plusieurs jeunes. Surtout que on commence à voir la lumière au bout du tunnel. Fait qu'on se disait comme, hey, il y a peut-être espoir que comme on ait peut-être un petit bal, comme juste notre gang, mettons, ou, mais non, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont dans le même état d'esprit que moi. Là.
Pour avoir, Chloé, un ado à maison qui lui-même côtoie des ados dans les parcs, est-ce que avec vos amis, vous avez pensé à vous organiser une sorte de bal en marge du vrai bal à l'extérieur?
Oui, on a pensé ça. Et c'est sûr que moi, il y a une petite incompréhension du fait que on va magasiner. On va dans les parcs, on ouvre les parcs, puis on peut faire des rassemblements. Puis je trouve ça un peu contradictoire de dire que comme je peux aller faire la file pendant 2h30 dans un centre d'achat, toucher à plein d'affaires, mais pas avoir de balle. Je trouve ça un petit peu contradictoire. En même temps, je me dis, bon, est-ce que c'est trop... c'est pendant une soirée, puis là, ça va être trop de gestion. Peut-être, je sais pas. Je trouve ça contradictoire, mais en même temps, bon, c'est la santé publique qui a décidé ça, on va le respecter. Mais c'est sûr que l'idée m'a passé de faire comment? On va faire un petit chilling, mettons, là, si je peux dire. Là.
Oui, les parents d'ados connaissent cette expression-là.
Un petit
party.
Oui, puis de dire que comme, hey, on va s'organiser quelque chose, mais en même temps, je sais pas si ça va être possible. C'est comme... La santé publique nous offre 6 personnes maximum. C'est moi, dans mon école, on est 500.
Ouais,
c'est quand même un petit peu impossible.
Ça fait beaucoup de sous-groupes, là.
Ça fait beaucoup de sous-groupes, ça fait beaucoup de personnes. Puis je me dis, il faudrait juste que j'invite ma petite gang d'amis, mais encore là, ma gang d'amis, on n'est pas juste 6, là. Fait qu'il faudrait que je coupe du monde. Fait que non, ça, c'est pas dans mon esprit. Fait que je sais pas trop qu'est-ce que je vais faire. Là, je pense que c'est sûr qu'avec ma meilleure amie, on a eu comme idée de payer un photographe puis de prendre des photos à deux. Mm-hmm. Ça, c'est une idée qui a toujours été là. Fait que je sais pas trop qu'est-ce qu'on va faire. Honnêtement, en ce moment, on est comme tout en mode solution. Là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Puis l'école a vraiment été correcte avec nous de dire comme on va vous organiser quelque chose. On va essayer vraiment fort. Je suis sûre qu'on va avoir quelque chose. Mais c'est pas un bal. C'est ça l'affaire.
Merci beaucoup, Chloé, puis bonne chance pour la suite. Bon courage.
Ben merci beaucoup.
Salut.
Bye.
C'était Chloé Brideau, élève de 5e secondaire pour la deuxième année consécutive à cause de la pandémie, ben il n'y aura pas de bal définissant de secondaire 5. Et je sais, vous m'écrivez à chaque fois que je parle de ça pour me dire « Ouais, mais c'est pas grave, il y a des affaires plus graves que ça. » C'est vrai. Je ne vais pas tomber dans une concurrence des privations. Mais quand tu as 16, 17 ans et que ça faisait des années que tu l'attendais et que tu as perdu quelques rites de passage qui ne vont pas revenir, ben quand même, ça fait un petit pincement au cœur et je pense qu'il ne faut pas déprécier ça.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Patrick Lagacé en accéléré.
Les travaux de l'enquête publique de la coroner sur la mort de Joyce Echaquan se poursuivent aujourd'hui. Il y a divers intervenants qui ont fait des recommandations. Parmi eux, le chirurgien Inou Stanley Volant était à la commission. Il est au bout du fil. Docteur Volant, bonjour.
Bonjour, M. Lagacé.
Merci de nous parler aujourd'hui. Écoutez, vous avez témoigné aujourd'hui et je vous cite, vous avez dit « Je suis tanné des commissions ». Connaît déjà les réponses. Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Bien, on connaît les réponses parce que le sort des Premières Nations au niveau de la santé, les problématiques de racisme systémique sont déjà connues depuis des années et on a déjà des solutions. C'est d'implanter le concept de la sécurisation culturelle dans nos systèmes de santé, c'est-à-dire de former des gens qui sont dans le milieu de. Dans le domaine de la santé, infirmières, médecins, préposés bénéficiaires et même travailleurs de support dans les hôpitaux pour qu'ils deviennent sensibles, connaissants et compétents pour communiquer avec des gens des Premières Nations et rendre ces lieux-là comme des endroits sécuritaires au niveau culturel, que les gens ne se sentent pas. Je vais vous donner un exemple. Les gens de ma communauté ne vont pas à l'hôpital à Bécomo. Ils ont peur des préjugés que les personnes peuvent avoir envers eux. Même chose à Sept-Îles, même chose à Joliette. Et souvent, ça retarde les diagnostics. Ça retarde, ça augmente le nombre de complications. Donc, il faut rendre les cellules-là sécuritaires au niveau culturel, que les gens se sentent connus et respectés.
Accueillis et compris là, dans leur particularité. Mais ça, est-ce que c'est le travail des préposés aux bénéficiaires, des infirmières, des médecins, des hôpitaux, ou est-ce qu'il ne faudrait pas avoir des gens des communautés autochtones concernés dans ces hôpitaux-là?
Bien, c'est un mélange de tout. Je pense qu'il faut que le personnel soit formé. Donc, c'est important de faire de la formation. Et au ministère de la Santé, actuellement, ils sont en train de faire un plan avec le bureau des affaires autochtones au sein du ministère de la Santé de développer un plan d'éducation en sécurité culturelle qui devrait être déployée dans les prochains mois, les prochaines années dans le système de santé au Québec. Et aussi, c'est important d'avoir des agents de liaison autochtones. Il faut avoir des gens qui sont là pour pouvoir aider aux patients autochtones de naviguer dans ce système-là qui est étranger à eux, qui est souvent perçu comme un peu redoutable. Ça fait peur aux gens des Premières Nations.
Vous parlez de sécurisation culturelle, là, ce qui est très concret là, sur le plancher des hôpitaux. Et vous avez aussi dit, Dr Volant, là, devant la commissaire, vous avez dit que c'est important de reconnaître le racisme systémique. Expliquez aux auditeurs qui nous écoutent là, comment ça aurait pu éviter la mort de Joyce Echaquan si c'était reconnu, selon vous.
Bien, si c'était reconnu, les gouvernements, les hôpitaux auraient probablement imposé cette concept de sécurisation culturelle avec aussi des conséquences. Donc, un processus de plainte qui donnerait un levier pour que les gens qui ont des attitudes racistes peuvent, sans les punir, peut-être les éduquer, les amener vers une ouverture à l'autre qui est très, très importante. Je pense que le processus de plainte doit être perçu comme des opportunités d'améliorer la qualité des soins aux patients.
Quelqu'un qui nous écoute, là, okay, qui est de bonne foi, puis qui a des réserves sur le concept de racisme systémique, quels sont les mots que vous utiliseriez, Dr Volant, pour convaincre, pour essayer de convaincre cette personne-là?
On peut appeler ça discrimination systémique, on peut appeler ça ostracisation systémique. C'est sûr que moi, au niveau du débat sémantique, j'ai un peu dépassé le débat sémantique. Si on doit appeler l'éléphant dans la pièce un pachyderme à grandes oreilles, ben tu sais, puis qu'on fasse un trou pour la faire sortir, je suis bien d'accord de l'appeler le pachyderme à grandes oreilles, pourvu qu'on fasse des actions efficaces que ça change. Je ne veux plus voir d'autres Joyce Echiquan mourir dans les écrans. Je ne veux plus entendre parler de ça. Je pense que c'est inacceptable en 2021 que des gens meurent dans des circonstances comme ça, tout à fait irrespectueuses. On est une seule société évoluée. Ça ne devrait pas être comme ça en 2021.
OK. Je vous amène sur un autre terrain, là, mais connexe, Dr Stanley Volant. Là. C'est une histoire qui secoue le Canada en entier. Il y a un ancien pensionnat autochtone à Kamloops, en Colombie-Britannique, sur un terrain pas très loin. On a trouvé les cadavres de 215 enfants autochtones qui ont fréquenté ce qu'on appelle les écoles résidentielles en anglais, là, où ces enfants-là étaient assimilés. Ça a été quoi votre réaction en prenant connaissance de cette nouvelle-là?
Malheureusement, on le savait déjà, comme autochtones qui avaient eu une surmortalité dans les pensionnats autochtones au Canada, surtout dans l'Ouest, au Québec un peu moins, mais quand même présent. Durant mes marches, quand j'ai marché avec les Atikameks de Robichouan jusqu'à Manoan, les amis me parlaient que dans les années 40, donnaient les enfants sur le bord de la traite de chemin de fer proche de la TUC pour les monter à Amos. Il y a des enfants qui sont pas revenus. Ils n'ont jamais su où étaient ces enfants-là. Donc, et dans la commission, il y a plusieurs témoins qui ont parlé d'enfants disparus qui n'ont jamais été retrouvés. Donc, ces 215-là, c'est pas étonnant. Puis, on risque d'en retrouver d'autres dans les prochaines années. Ça témoigne comment cet épisode noir-là de l'histoire du Canada qui nous affecte encore beaucoup les Premières Nations parce que c'est un traumatisme transgénérationnel d'avoir été abusé sexuellement, physiquement, émotionnellement pendant des générations. Ça a laissé des traces dans nos communautés et qui explique probablement beaucoup les problèmes sociaux qu'on a dans nos communautés.
Merci beaucoup, Dr. Volant, de vous être arrêté sur le bord de la route pour nous parler. Je sais que vous êtes au retour là, de Trois-Rivières. Oui. Bonne journée.
Bien, merci, Tunis Komaten.
Salut. Merci, V.
Patrick Lagacé en accéléré.
Les vols de voitures étaient stables, semble-t-il, depuis une dizaine d'années. C'est ce que nous apprend le Journal de Montréal. Et là, dans les derniers mois, il y a eu une recrudescence. Et il semble que le port de Montréal est toujours une plaque tournante des voitures volées au Canada. Les véhicules prennent la direction bien souvent de l'Afrique et de l'Europe. On va parler de tout ça avec Freddy Marcantonio. Il est vice-président au développement des affaires et distribution chez Repérage Tags. C'est une entreprise spécialisée en gestion de risques de vol d'auto. Il était cité dans l'article du journal de ce matin. Monsieur Marcantonio, bonjour.
Bonjour, monsieur Lagacé. Comment allez-vous?
Très bien. Vous aussi, j'espère. Écoutez, dites-moi, Repérage Tag, là, qu'est-ce que vous faites?
Bien, Repérage Tag, c'est une compagnie québécoise. Notre siège social est ici. Ça a été fondé il y a un petit peu plus que 10 ans. Et on installe des pouces vis-à-vis pour récupérer le véhicule. Mais non seulement si le véhicule est volé, on va le récupérer, mais aussi on baisse l'instance de vol de presque 99 %. C'est-à-dire que les voleurs, quand ils voient qu'un véhicule est protégé avec le système complet TAG à 3 volets, ils vont passer au prochain véhicule.
OK. Donc, vous y connaissez en défense contre les voleurs de voitures. Qu'est-ce qui a changé dans les dernières années chez les tactiques, chez les approches des voleurs de voitures?
Dernièrement, depuis la pandémie, il y a eu un gros changement. C'était les réseaux bien organisés, ça fait des années qu'ils sont en opération, mais aujourd'hui, leur stratagème a complètement évolué. Alors, la concentration maintenant, le vol auto, la majorité des véhicules, je vous dirais autour de 80 % sont maintenant exportés. Et les facettes aussi d'agir des réseaux, ils ont aussi des stratagèmes bien structurés, bien organisés pour vis-à-vis la fraude. La fraude soit aux assureurs ou aux institutions bancaires qui vont financer ces véhicules.
Mais je lisais dans l'article du journal aujourd'hui là, que les voleurs de voitures, là, ils prennent plus... Ils prennent plus un vieux cintre pour essayer de s'infiltrer dans l'auto. Il n'est plus question de bisouiller après les fils. Tout ça se fait, ou presque, de façon informatique. Comment ils procèdent?
Alors, depuis 2007, au Canada, grâce au défunt M. Jean Lapierre, un ancien collègue du 98.5, dans le temps qu'il était ministre des Transports au gouvernement fédéral, toutes les manufacturiers d'automobiles, toutes manufacturiers confondues, sont obligées d'avoir un système anti-vol à trois coupures. C'est-à-dire que ça devient très complexe à voler les véhicules aujourd'hui. Ça prend une expertise. Comme j'aime dire souvent, c'est que les voleurs au Québec, ils ont des doctorats en vol. Alors, avant, on utilisait...
Des doctorats en vol, c'est ça?
Exactement, wow. Les doctorats en vol. Alors, avant, on utilisait un simple tournevis ou un cintre. Aujourd'hui, ce sont des ordinateurs qu'on utilise pour extraire les codes dédiés à la protection du véhicule vis-à-vis les manufacturiers.
Je vous arrête, M. Marc-Antonio. Là. Expliquez-nous comment ils font ça. Ils se promènent dans la rue avec un ordinateur, ils choisissent une auto, puis ils se mettent à essayer de la pirater.
Alors, il y a plusieurs facettes. Ils vont avoir accès à l'ordinateur des véhicules, parce que maintenant, les véhicules, c'est des ordinateurs à quatre roues, comme qu'on dit. Ils passent par le OBD, qui est des On-Board Diagnostics, excusez mon anglicisme. Oui. C'est l'entrée principale des véhicules que les mécaniciens vont utiliser pour savoir quoi faire sur un véhicule, comment travailler côté mécanique. Alors, en rentrant, c'est comme une clé USB. Ils vont chercher les codes nécessaires, soit pour fabriquer une clé ou pour contourner le système anti-vol d'origine. Et ils peuvent facilement partir avec le véhicule, ou soit ils ont des détecteurs à distance. Nos clés, aujourd'hui, on a tous des clés intelligentes avec les véhicules qui ils vont démarrer simplement en poussant un petit bouton, les push to start, comme qu'on dit. Mm-hmm. Alors, eux, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils sont capables d'aller lire le code de la clé, et soit ils vont démarrer le véhicule de cette façon en faisant croire à l'ordinateur que la clé est dans le véhicule.
C'est plus du piratage de voiture que du vol de voiture. Je comprends que le vol, c'est ce qui arrive à la fin, mais on pirate l'auto, là.
Exactement. On va contourner le système informatique du véhicule. C'est des pirates experts. Les jeunes aujourd'hui au Québec qui ont une connaissance, je vous dis, on fabrique plus des joueurs de hockey au Québec, mais on a vraiment des experts en vol auto.
Vous êtes vraiment un maître de la formule choc, hein, après le doctorat en vol.
C'est vrai, parce que honnêtement, on a développé une expertise au Québec. Ceux qui volent les véhicules ne font jamais partie du réseau. Les réseaux, c'est des petits PME. Ce sont des PME que je vous dirais sur une liste de 1 à 10. Si on mettrait ces PME-là sur l'industrie du vol auto sur une liste de 1 à 10 au Québec, ils seraient peut-être dans le top 5. Ça génère beaucoup, beaucoup, beaucoup de millions de dollars, l'industrie du vol auto au Québec. Bonne année, mal année, il y a pas loin de 400 millions de dollars en valeur de véhicules volés au Québec. Le Québec est une plaque tournante, et la plaque d'un Québec, ça vaut beaucoup d'argent dans les pays choisis pour l'exportation.
Monsieur Marc-Antonio, si j'oublie mon téléphone, là, je peux le retracer grâce à la fonction localiser. Est-ce que c'est aussi simple avec une voiture?
Avec une voiture, vous voulez dire pour protéger le véhicule, si jamais on utilise un GPS dans le véhicule, les GPS d'origine, mais les voleurs, l'expert voleur, ils vont facilement brouiller les zones de ces systèmes-là. Alors, c'est pas possible de le faire. Si je décide de voler un véhicule, la première chose que je fais, je vais brouiller l'onde de GPS qui est dans le véhicule ou tout système GPS.
OK. J'ai vu qu'Apple a sorti une sorte de petite tuile. Là. C'est tout petit, c'est gros, comme un 2$ qu'on peut laisser dans un sac au cas où on le perd. Ça, ce genre de bidule-là, est-ce que ça peut être efficace pour retracer un véhicule volé?
Ce sont des bidules comme nous, on a même chez TAC, Volback, qu'on appelle. C'est des bidules qui fonctionnent en anglais. On appelle ça du crowdsourcing. Ça va prendre d'autres personnes autour de votre véhicule qui ont aussi la bidule disponible et que la bidule est active. Alors, ce n'est pas vraiment une façon pour retracer un véhicule volé. Non, ça prend vraiment une équipe dédiée pour repérer le véhicule, et ça prend un système à multi-pouces pour éliminer toute facette de retrouver le système dans le véhicule.
Très bien. Merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui, M. Marc-Antonio.
Excellent. Bonne journée.
Salut, Freddy Marc-Antonio est vice-président de Repérage Tag, une entreprise spécialisée en gestion de risques de vol d'auto.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Patrick Lagacé en accéléré.
OK, on en a parlé plusieurs fois là, ces dernières semaines, ces derniers mois. Il y a une recrudescence des fusillades à Montréal. Il semble qu'il y a de plus en plus de d'armes à feu qui tombent dans les mauvaises mains. Pas nécessairement des gens là, du crime organisé, mais il semble que ce soit pas si difficile de mettre la main sur une arme à feu. On en parle immédiatement avec l'inspecteur David Shane, les porte-parole du SPVM et conseiller au bureau du directeur. Monsieur Shane, bonjour.
Bonjour, M. Lagacé.
OK, il y a eu deux incidents là, inquiétants en fin de semaine dans le Vieux-Montréal, dans le centre-ville. Parlez-nous d'abord de ce qui s'est passé dans le Vieux-Montréal.
Dans le Vieux-Montréal, ce qui s'est passé cette nuit, dans le fond, c'est que vers les 3 heures du matin, on a des patrouilleurs qui étaient affectés à ce qu'on appelle notre force corporative en vue du déconfinement, qui ont entendu des coups de feu. Et par instinct et par entraînement, ils ont immédiatement accouru vers la zone de danger pour aller voir qu'est-ce qui se passait puis intervenir. Et grâce à leur présence puis leur réaction rapide, ils ont été en mesure d'arrêter des suspects. Et ce qu'on a compris plus tard, c'est qu'il y a deux groupes criminalisés qui s'étaient échangés des coups de feu. Alors, on a dû boucler le secteur pendant de longues heures pour s'assurer que ce soit sécuritaire pour nos citoyens. Et au moment où on se parle, là, la zone est sécurisée, mais les policiers continuent à travailler là, pour examiner la scène de crime.
OK. Et aussi, il y a dans le Vieux-Montréal, on le sait, là, ça a pas mal brassé ces derniers temps. Il y a eu aussi un incident par arme à feu.
Oui, je crois que celui auquel vous faites référence, c'est celui où est-ce qu'il y a une dame qui a eu une balle au pied. Est-ce que c'est celui?
Ah oui, pardon, oui, c'est ça, oui, exactement.
C'est
oui.
Sûr qu'on parle de la même chose. Donc,
elle s'est pris une balle perdue.
Ben, écoutez, on continue à analyser les différentes hypothèses. Les enquêteurs font le travail. Première hypothèse, oui, ce serait ça. C'est peut-être un vol qualifié là, qui a mal tourné, mais c'est un peu tôt là, pour vraiment conclure sur cet événement-là.
OK, dites-moi... Là, il y a eu des enquêtes spécialisées, il y a eu des escouades spécialisées, mais je me souviens d'avoir interviewé des policiers qui disaient, écoutez, là, il faut aussi parler au groupe de criminels, leur dire que si ça continue à se tirer dans les rues, ben il va y avoir plus de pression, ce sera pas le fun pour leurs activités. Est-ce que les groupes d'en fin de semaine, ce sont des groupes criminalisés?
Je vous dirais que à première vue, aujourd'hui, on est lundi, là, on se parle très rapidement suite aux événements. C'est notre hypothèse principale, oui, c'est que la majorité des événements sont tous reliés à des groupes criminalisés qui se croisent. Et là, il y a des escarmouches ou des chicanes qui débutent et qui finissent par la violence, oui.
Est-ce que les policiers parlent à ces gens-là? Est-ce qu'il y a des canaux informels pour leur dire que ça ne pourra plus durer bien ben longtemps avant que la police se fâche et commence à les talonner, disons?
Ben, je vous dirais assez rapidement que le travail de la police se passe sur plusieurs fronts. Hein. Puis je veux pas, je pourrais en parler longtemps, mais il y a le travail terrain qui est fait par nos policiers de quartier, le travail qui est fait avec les organismes communautaires, l'équipe multisectorielle qui a été déployée en visibilité, on prend contact avec les citoyens. Il y a le travail d'enquête qui est fait après chaque événement. Ensuite de ça, il y a les différentes escouades spécialisées, par exemple en matière de stupéfiants, en matière de crime organisé. On a une unité spécialisée dans le crime organisé. Et évidemment, là, plus récemment, l'équipe ELTA, là, l'équipe de lutte au trafic d'armes, qui vise à s'attaquer à l'approvisionnement des armes à feu. Donc, on travaille au SPVM vraiment sur plusieurs fronts. Mais l'élément clé de toutes ces interventions-là restera toujours le citoyen qui a besoin de nous transmettre des informations pointues dont on a besoin pour intervenir efficacement.
Très bien. Merci beaucoup, M. Shane.
Ça fait plaisir.
Patrick Lagacé, en accéléré.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là,
très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.